Votre grand journal de soir sur Europe 1, Mathieu Béliard.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Comprenez-vous que le montant des dons récoltés pour Notre-Dame de Paris suscite la polémique? C'est notre débat jusqu'à 20h. Je dis soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On a eu énormément d'appels sur cette question et clairement, pour le coup, on est sur un sujet où nos auditeurs sont divisés. Avec nous en studio, Pierre Siquier, président de France Générosité. Bonsoir Pierre Siquier.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Dominique Desjeux, professeur d'anthropologie sociale et culturelle à l'Université Paris Descartes. Bonsoir Dominique Desjeux.
Bonsoir.
Et à travers vous et à travers cette invitation, je voudrais aussi que l'on interroge notre rapport à l'argent ce soir. Emmanuel Duteil, qui est chef du service France à la rédaction d'Europe 1. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous.
Merci à vous trois d'être avec nous. Benjamin Muller, bonsoir.
Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous.
Comme chaque jour avec vous, Benjamin, on voit comment les médias ont traité un sujet de l'actualité. De quoi parle-t-on ce soir?
Bon Mathieu, c'est cool, aujourd'hui on parle de jeunes gens heureux.
On a gagné
Allez Mathieu, tous ensemble. Alors malheureusement pour vous Mathieu, ce ne sont pas les joueurs du PSG que l'on entend si contents, mais bien ceux du Football Club de Nantes.
Football, jamais 203 pour le Paris Saint-Germain.
Eh oui, ça fait 3 matchs que le PSG ne gagne plus, 3 matchs qu'on pense que Paris va être champion et 3 matchs que les supporters parisiens sont déçus. Ce qui donne ce genre de débat aujourd'hui dans les émissions de foot.
Après Strasbourg, après Lille, Paris gâche à Nantes sa 3ème balle de titre. 10 buts encaissés en 3 matchs, est-ce qu'on peut être champion? Mon avis, c'est ce que va être vrai, et être en crise.
Et j'ai l'impression que la réponse, c'est oui, et pas qu'un peu, mon gars. Alors maintenant, il faut tenter de comprendre pourquoi cette équipe, ce club, n'arrive pas à conclure. Analyse de Jean-Michel Larquet.
J'ai bien peur que ce soit un groupe de losers, hein, tout simplement.
Voilà, il faut savoir dire les choses, c'est important. Même l'entraîneur du club, l'allemand Thomas Tuchel, n'arrive pas à défendre son équipe.
Je défends toujours mes joueurs, mais aujourd'hui, c'est pas possible.
Ouais, c'est pas possible. Alors vous allez me dire, bah, qui pour les défendre? Les Parisiens ont-ils, je sais pas moi, un relais dans les médias? Quelqu'un d'assez puissant médiatiquement pour relativiser ces défaites? La réponse est oui, j'ai trouvé.
La 32e journée de Ligue 1. C'est plus trop quoi penser finalement de ce sacre du PSG. Ils aiment, ils aiment entretenir le suspense.
Mais oui Mathieu, toujours voir le verre à moitié plein. Ils font ça pour nous les spectateurs. Sur RMC d'ailleurs, ils ont commenté le match en direct hier et au coup de sifflet final, ils étaient assez contents de leur soirée.
Merci messieurs, on s'est régalé.
Ah, très bien.
Captain et Jérôme.
Ah, quelle belle soirée, c'était beau.
Non, mais attendez, on a rigolé. On a bien rigolé quand même.
Vous avez vu Mathieu, il rigole de votre petit club d'amour, c'est encore pire. Mais dans ces cas-là, vers qui doit-on se tourner? Qui pour venir en aide aux Parisiens?
Ils nous tiennent en haleine. Autant que la nouvelle saison de Game of Thrones, c'est Parisiens 17 points d'avance sur le dauphin Lille.
Mais oui, quelle belle image. Prochain match, les joueurs ils vont entrer comme ça sur la pelouse. Alors que voici les représentants de la famille PSG qui pénètrent sur les terres dites Parc des Princes, vont-ils réussir à venir à bout de leurs démons et oublier la remontada à Barcelone, la comebackada de Manchester et la branletada de Lille ou de Nantes? La suite au prochain numéro. En attendant, faut pas faire la tête Mathieu, quand une équipe perd, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une autre l'a emporté.
On a gagné
des supporters à Nantes. Hein.
Il faut toujours se méfier des Nantais.
Absolument.
Emmanuel Duteil, ici présent.
J'avais perdu mon pari lors de la demi-finale de Coupe de France de la Ligue.
Coupe de France. Paris n'a pas atteint les demi.
Et voilà,
de
hier on a gagné. Il faut faire toujours attention aux Nantais.
Emmanuel Duteil, pas peu fier ce soir. 19h27,
triomphe modeste
sur Europe 1. On ne fera pas le lien entre le Paris Saint-Germain et les millions dont nous parlons, qui servent à... Alors je fais attention avec le verbe, est-ce qu'on rebâtit, est-ce qu'on restaure? Emmanuel Macron veut rebâtir la cathédrale Notre-Dame de Paris. On va faire le service économie de la rédaction d'Europe 1. Tiens, les comptes justement des dons depuis lundi soir. Est-ce que vous comprenez que le montant des dons récoltés pour Notre-Dame de Paris suscite la polémique? C'est notre débat. Jusqu'à 20h, je vous attends au 39-21.
Il est 19h30, vos invités, Mathieu Béliard sur Europe 1, Pierre Siquier, président de France Générosité, Dominique Desjeux, professeur d'anthropologie sociale et culturelle à l'Université Paris Descartes, et Emmanuel Duteil, chef du service France à la rédaction d'Europe 1.
Et dans votre service, Emmanuel, on a tenu des comptes depuis lundi soir de ces nombreux dons qui sont arrivés, que ce soit du mécénat, que ce soit les cagnottes, à l'heure qu'il est, à l'heure où nous parlons, à 19h30. Où est-ce qu'on en est de ces comptes? Combien d'argent récolté pour sauver Notre-Dame de Paris?
Alors, selon notre comptage, qui n'est peut-être pas totalement exhaustif, mais on en est à 855 184 104 euros, très précisément. Vous vous demandez peut-être pourquoi on arrive à 4 euros, c'est parce qu'on a converti la somme que, par exemple, que Disney a donnée en dollars. Ils ont donné 5 millions de dollars, on l'a converti en euros, donc c'est pour ça qu'on arrive aussi à quelques petits chiffres comme ça. Donc c'est totalement historique, il faut voir que ça n'a jamais existé pour une œuvre comme ça de reconstruction après un événement aussi dramatique que celui de l'événement qui a pu se passer à Notre-Dame de Paris. C'est historique la rapidité avec laquelle toute cette somme a pu arriver.
Et ce matin, la Fondation Abbé Pierre a demandé à ses donateurs, je fais toujours attention, je pourrais vous dire Bernard Arnault, M. Pinault, mais comme la liste ne peut pas être forcément forcément exhaustive. Il y a énormément de donateurs. Je fais toujours, j'essaie d'éviter de donner des noms parce que c'est pas un débat personnel. La Fondation Abbé Pierre qui demande à ses donateurs de ne pas oublier les démunis. Du côté de France Générosité, je vous remercie d'être avec nous, Pierre Siquet, mais je sais que nous avons aussi appelé d'autres associations pour recueillir leur ressenti. On a été assez mal à l'aise de cette dénonciation de la Fondation Abbé Pierre d'un oubli des plus démunis.
Oui, c'est vrai que le fait est absolument exceptionnel. Bon, à événement exceptionnel, je dirais recueil de fonds ou collecte absolument exceptionnel, c'est vrai, ça n'est jamais arrivé. Maintenant, c'est vrai que le don est quelque chose d'extrêmement personnel, d'extrêmement émotif. Et donc l'émotion, quand on voit ces images qui ont parcouru le monde de ce clocher ou de cette flèche qui tombe, bon, c'est une image qui ne laisse personne indifférent, surtout quand c'est un symbole national. Donc c'est assez normal que ça ait provoqué cette émotion, donc ce niveau de don. Bon, ce qui est exceptionnel aussi, c'est que ce sont des très grands donateurs qui se sont positionnés tout de suite et très vite. Donc ce qui fait que sur les 800 millions dont parle mon voisin, il y en a peut-être 600 millions dans quelques familles. Bon, donc après, on relativise aussi, ce qui n'empêche pas les donateurs de donner à leur cause habituelle. Enfin, on espère que non.
60% des Français font des dons caritatifs, ouais. Ce sont des chiffres qui évoluent d'année en année, ouais. Et qui ont aussi évolué avec la fin de l'ISF, il faut le souligner.
Alors, non, pas tellement en nombre de dons. Hein. Le nombre de dons n'a pas changé. C'est plutôt le volume des dons, le niveau de dons moyens qui a un peu changé, c'est vrai. Alors c'est vrai que l'ISF, la transformation de l'ISF en IFI, a fait perdre à la collecte à peu près 150 millions d'euros l'année dernière, en 2018. Donc c'est pas rien. Et c'est vrai qu'on avait peut-être un peu sous-estimé.
Parce que par le mécanisme de déduction fiscale,
on pouvait
sortir.
Oui, c'est ça.
Voilà, parce que de très gros donateurs ne sont plus venus se positionner sur les dons puisqu'ils ne bénéficiaient plus.
Alors je dirais ça un peu autrement. C'est qu'en fait, il y a eu 350 000 donateurs ISF. Il n'y en a plus que 150 000 déjà de donateurs IFI. Mmh. Donc ce qui veut dire que mécaniquement, il y avait des gens qui n'ont pas pu ou qui n'ont pas voulu, effectivement, continuer de donner. Mais on ne peut pas dire que ce soit aussi simple que ça.
Bien sûr.
Donc, il n'y a pas eu que les grands donateurs qui n'ont pas donné. Il y a aussi eu les gens moins riches qui ont moins donné l'année dernière que l'année d'avant.
Avec de grosses craintes, ces derniers mois, on en a beaucoup parlé sur le pouvoir d'achat, évidemment. Yes. Dominique Desjeux, je voudrais mettre les deux pieds dans le plat et vous poser clairement la question. Les Français ont-ils un problème avec l'argent ?
Comment dire ça de façon assez simple ? Moi, je suis frappé d'une chose depuis très longtemps. À force de voyager à travers le monde, c'est qu'en Europe, il y a deux Europes, et j'ai découvert ça grâce à l'Afrique, mais je vais essayer d'être court. Il y a l'Europe du Nord qui est protestante et l'Europe du Sud qui est catholique, en très 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 schématique. L'Europe du Nord a donné depuis 200 ans plutôt des partis sociaux-démocrates et l'Europe du Sud a donné plutôt des partis communistes. Et c'est une suite, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'un parti social-démocrate ? C'est proche du protestantisme où le problème n'est pas de gagner de l'argent, mais de bien le redistribuer. Et le péché, pour un protestant, comme pour un social-démocrate, là encore, je raccourcis la démonstration, c'est de ne pas redistribuer. Dans les pays de tradition catholique, qui ont donné des partis communistes très forts, le péché, c'est de gagner de l'argent. Et donc, on a vraiment deux traditions antinomiques. L'une qui est de dire, l'important, c'est de redistribuer, c'est de faire des dons. Et donc, c'est absolument normal que les riches donnent de l'argent. Mais de l'autre côté, un riche, par définition, est mauvais. Donc, il a de l'argent, et même s'il en donne, forcément, c'est avec derrière des mauvaises intentions ou je ne sais pas quoi encore. Et c'est vraiment deux traditions très différentes.
En France, nous ne sommes pas protestants de culture. Il y a beaucoup de protestants.
Pour moi, la tradition catholique. Hein.
Mais pourtant, on est un des pays qui redistribue le plus, si ce n'est le pays
qui redistribue
le plus.
Alors ça, c'est autre chose. Ça, c'est un des paradoxes pour moi qui montre que quelque part, les approches culturelles ne suffisent pas à expliquer les problèmes. Je suis toujours étonné par les arguments que j'entends. Même si, comme il y a beaucoup de mélanges d'émotionnel, c'est normal, je veux dire, on n'est pas toujours dans le rationnel. Moi, j'essaie d'être un peu plus rationnel, d'objectiver, mais comme tout le monde, je suis émotionnel aussi. De dire à la fois on paye trop d'impôts et de dire on ne distribue pas assez. On a un taux extrêmement élevé d'imposition. Alors, il faudrait distinguer si on est sur l'impôt sur le revenu, si on est sur la TVA, etc., etc. Et donc, forcément, on a une très forte redistribution. Et moi, ce qui me dérange dans les débats, quand c'est des débats, je ne parle pas de l'émotion, mais quand c'est des débats, c'est qu'on ne voit jamais l'économie devenu comme quelque chose de circulaire, c'est-à-dire on produit de la valeur, on produit de la richesse. Moi, ma question à chaque fois, c'est est-ce que les gens ont redistribué en proportion de leur richesse ? Je serais assez protestant de ce côté-là, alors que je suis plutôt de tradition catholique.
Pierre Siquier ?
Oui, moi je vais compléter un peu ce que vous dites, parce que c'est vrai que la tradition philanthropique anglo-saxonne, elle concerne beaucoup les riches. Et c'est vrai que les très riches donnent beaucoup au travers de la philanthropie. Par contre, chez nous, les très riches, à part aujourd'hui, n'ont pas vraiment beaucoup donné. Ils ont donné, et la philanthropie, je vais dire à la française, c'est une philanthropie qui est quand même très très équilibrée et très très large. Parce que n'oubliez pas qu'il y a 5,5 millions de foyers qui donnent tous les ans. Des sommes qui vont de 10 euros à, évidemment, 10 000 euros. Mais je veux dire, ce qui est quand même assez frappant, c'est que ce n'est pas les riches qui donnent en France, c'est tout le monde. Et ça, c'est formidable. Donc, ce qui explique aussi ce mouvement-là, parce que finalement, c'est une espèce d'émotion nationale et une espèce d'émotion trans-sociétale, bon, qui fait que tout le monde donne pour Notre-Dame. Bon, alors, c'est vrai que c'est un phénomène exceptionnel. Mais quand vous regardez le don moyen, il est très, très réparti. Curieusement, alors qu'on aurait pu se dire qu'il n'y a que les riches qui donnent, non. C'est assez étonnant.
Moi, j'étais très surpris hier. Nous avons simplement organisé une petite partie de débat avant 18h. Je demandais à nos auditeurs, est-ce que vous allez ou est-ce que vous avez donné ? J'étais surpris par les montants.
Bien sûr.
On parlait des auditeurs qui avaient des métiers de cadre moyen, qui n'étaient pas forcément tout en haut de la pyramide, si j'ose dire, qui nous donnaient des montants comme 300, 400 euros. L'un croyant nous a parlé de 1163 euros parce que c'est l'âge de la date de démarrage de la construction de Notre-Dame. J'étais surpris par les montants, parfois. 19h37, vous restez bien sur Europe 1.
Europe 1.
Je vais poser une question à Emmanuel Duteil dans un instant, vous restez bien avec nous. Le coup de colère ou d'agacement de Bernard Arnault aujourd'hui. Bernard Arnault qui a donné pour la cathédrale Notre-Dame de Paris. Nous en parlons dans quelques secondes et Laetitia au 3921 sera en direct avec nous.
Mathieu Béliard sur Europe 1 jusqu'à 20h. Vos invités, Mathieu Pierre Siquier, président de France Générosité, Dominique Desjeux, professeur d'anthropologie sociale et culturelle à l'Université Paris-Descartes, Emmanuel Duteil également, chef du service France à Europe 1.
Alors, petit débat hier sur les déductions fiscales autour de ces dons. C'est d'abord la famille Pinault qui a précisé qu'elle ne demanderait pas cette déduction fiscale. Aujourd'hui, du côté de Bernard Arnault, même son de cloche, mais ça s'est accompagné d'une forme d'agacement.
On peut aller beaucoup plus loin. Il est hors de lui. Il est totalement énervé du fait d'avoir donné 200 millions d'euros et de se faire taper. Ça s'est passé quand ? Ça s'est passé lors de l'Assemblée Générale d'LVMH aujourd'hui, donc face à ses actionnaires. Il a quand même dénoncé, je cite, la petitesse et la jalousie dans l'air. Il a invité tous ses actionnaires qui étaient dans la salle à dire, mais allez-vous plaindre du fait que nous fassions taper comme ça dessus ? Je pense que objectivement, il ne s'attendait pas à se faire taper dessus comme ça. Et surtout, il précise que lui aussi, il renonce à sa déduction fiscale. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, finalement. C'est pas qu'il renonce, c'est juste qu'ils n'y ont pas véritablement le droit. Pourquoi ? Parce que les entreprises, quand elles donnent, bénéficient logiquement d'une déduction fiscale de 60%. Mais c'est plafonné, c'est-à-dire que ça ne peut pas dépasser 0,5% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc si on prend un exemple comme LVMH, qui est une boîte qui fait des dizaines de milliards d'euros de chiffre d'affaires, elle ne peut pas déduire plus de 140 millions d'euros par an. Et ce sont des entreprises qui, d'habitude, popularisent beaucoup moins leurs dons. Mais elles donnent de l'argent, ces grosses entreprises. Et elles ont déjà atteint leur niveau de déduction fiscale. Donc finalement, quand il dit qu'il y renonce, non. Il ne peut pas, de toute manière, y prétendre. Il n'y avait pas le droit. Donc, il n'y avait presque même pas lieu aujourd'hui à la polémique autour de la déduction fiscale. Il peut y avoir une polémique, et on l'entend aussi, sur le fait de est-ce qu'il fallait tant donner pour Notre-Dame et est-ce qu'il ne faut peut-être pas donner un peu plus à côté ? C'est une autre polémique. Mais là-dessus, sur la déduction fiscale, il faut être très clair. Donc, effectivement, la famille LVMH ne le prend pas. Kering, qui est le propriétaire d'Yves Saint-Laurent, les Pinault ne prennent pas. On en parle un peu moins. Il y a aussi les Decaux qui, eux, vont donner 20 millions d'euros et qui ont également dit qu'ils ne demanderaient pas leur déduction fiscale. Mais peut-être par rapport à ce que l'on disait tout à l'heure sur le protestantisme et tout ça, en France, les entreprises donnent déjà. Les grandes familles ont déjà des fondations. Si on prend par exemple les Bettencourt, qui sont notamment les propriétaires en partie de L'Oréal, la fondation Bettencourt-Schoeller est, je pense, l'une des plus grosses fondations de France et qui donne énormément d'argent. Ça se calcule en millions d'euros. Là, la grande nouveauté, c'est qu'on a populariser des dons de très riches, ce que l'on fait d'habitude jamais, mais parce que par chance, on a très rarement une cause nationale aussi dramatique qui mobilise ici en France un tel investissement.
Pierre Siquier.
Oui, je voulais juste rajouter que dans la collecte de la générosité publique, les particuliers représentent 4,5 milliards et les entreprises déjà 3 milliards. Et dans ces 3 milliards, toutes les entreprises, comme vous le dites, ne le déclarent pas non plus. C'est-à-dire qu'il y en a qui le font, mais pas. Donc il y a 3 milliards aujourd'hui qui viennent des entreprises. Donc les entreprises donnent déjà beaucoup. Et effectivement, elles le popularisent plus ou moins. Ce qui fait que là, évidemment, compte tenu des sommes et en plus compte tenu de l'annonce un peu immédiate et très rapide de tout ça, on est rentré dans un débat très polémique. Mais moi, je trouve ça formidable s'ils abandonnent leur réduction fiscale, même s'ils n'y ont pas un droit. Mais je trouve ça formidable. Et moi, je tire mon chapeau au moins
mais
à ces boîtes.
Vous
ne
croyez pas
ça.
Que c'est une polémique qui est aussi peut-être. Parce que si on n'a pas de déduction fiscale, est-ce que vous ne croyez pas que du coup, l'entreprise va du coup donner moins et ça reviendra du coup tout à fait au même?
Ah, mais attendez, il y a un système qui a très bien marché, hein, c'est la loi Iagon. Oui. Donc cette loi Iagon, notre position à nous, c'est qu'il ne faut pas y toucher. Il y a eu peut-être entre guillemets des abus ou des gens qui ont beaucoup défiscalisé sur certains sujets.
Ce que dit la
Cour des comptes. Oui, mais la Cour des comptes, je veux dire, elle oublie qu'il y a énormément de PME qui ont donné, énormément d'entreprises qui ont déjà donné et énormément de sujets d'intérêt général qui ont été soutenus par ces entreprises. Donc faut pas. On a un système qui marche et comme d'habitude, quand il y a un système qui marche, ben faut qu'on s'amuse à le changer. Donc nous pensons qu'il ne faut pas trop changer le système du mécénat aujourd'hui.
Dominique Desjeux.
Mais moi, je suis là encore frappé par le rapport à la richesse, le rapport à l'argent. J'ai envie de dire deux choses. Mais la première, c'est par exemple les niches fiscales. Il y a une niche fiscale tout à fait intéressante, c'est celle qui permet, quand on a un employé, une personne qui fait le ménage, d'avoir un crédit d'impôt après. Et là, on dit qu'il faudrait enlever cette niche fiscale parce que c'est les riches qui payent ça. Et je me disais, en faisant un raisonnement économique, combien coûte la création d'un emploi dans la sidérurgie? Alors, je n'ai pas la somme, est-ce que c'est 500 000 euros, 1 million d'euros? Mais ça coûte très cher, vu la capitalisation qu'il faut pour créer un emploi. Là, grâce à des gens qui sont plus riches, on défiscalise une partie et on crée pas mal d'emplois qui coûtent beaucoup, beaucoup moins cher. Donc, je me dis toujours, avant d'avoir des bonnes fausses idées, regardons, comparons des coûts. Et regardons si c'est moins cher ou pas moins cher.
On a le même principe, nous, avec les bénévoles. C'est-à-dire que dans nos associations, il y a énormément de bénévoles qui participent aux missions sociales de nos associations. Ces bénévoles ne sont pas comptabilisés dans le PIB aujourd'hui, alors qu'ils seraient valorisés, ce qu'on va commencer à faire d'ailleurs, seraient valorisés, c'est énormément d'argent. Donc il y a des millions de bénévoles qui travaillent dans nos associations et nos fondations. Donc c'est la même chose, c'est un circuit économique qui est quand même très très important et qui n'est pas cher.
On va prendre Laetitia en ligne avec nous, Laetitia qui est en Isère. Bonsoir Laetitia.
Bonsoir Mathieu.
Soyez la bienvenue dans ce débat Laetitia.
Eh ben écoutez, moi je vous écoute religieusement si je puis dire, le terme s'impose.
Oui.
J'ai été comme tout le monde catastrophée par ce drame. Ce drame qui a touché quand même un bien patrimoine humanitaire, on va dire. Hein. On peut le dire.
Et sur les
dons... Quand on dit humanitaire, moi, je me sens partagée à ce niveau-là, la polémique de l'argent, parce que c'est bien de faire des dons pour secourir la cathédrale de Notre-Dame, c'est bien. Mais à côté de ça, je veux dire, bon, il y a un autre drame en France qui se joue en ce moment, c'est que la France, elle est en souffrance. L'humanitaire, il est en train de crever de faim. Alors, il y a des gens qui ont fait des dons, LVMH, tout ça, c'est très bien, et je suis sûre qu'ils en font tout le temps, sous couvert, sans qu'ils le disent, et c'est tout à leur honneur. Maintenant, s'ils défiscalisent certaines sommes, c'est jeu parfois. Mais quand je vois, en 48 heures, des sommes colossales ont été données comme ça, alors que ça fait 5 mois que des gens sont dans la rue, sans sous. Et moi, je peux vous le dire, j'ai 50 ans, j'ai eu des problèmes de santé, j'ai perdu un membre de ma famille, j'ai été obligée de m'en occuper parce que faute de moyens. Je vous assure qu'aujourd'hui, je compte mes centimes pour remplir mon réservoir, monsieur. Vous comprenez le problème ?
Je comprends très bien, Laetitia, et surtout, je voudrais redire ce que je disais il y a un peu plus d'une heure. Il n'est pas question d'opposer des pierres et des vitraux, une flèche de Notre-Dame de Paris, à la misère qui existe dans le pays, aux difficultés que rencontrent certains. Question que je pose à mes invités dans un instant, ces associations, et je poserai la question à Pierre Siquier, ces associations qui défendent certaines l'environnement, d'autres le logement, qui viennent en secours aux plus pauvres. J'ai même entendu Philippe Martinez de la CGT nous dire
Le truc, c'est qu'on, sans être contre l'aide à Notre-Dame, on se rend compte que l'argent, il y en a. 19h46.
Europe 1.
Et c'est quelque part la répartition de cet argent qui est posée par ce débat. Je vous attends comme Laetitia. Merci beaucoup Laetitia. Au 39-21, le débat continue jusqu'à 20h.
Vous écoutez Mathieu Béliard jusqu'à 20h sur Europe 1 avec vos invités. Pierre Siquier, président de France Générosité, Dominique Desjeux, professeur d'anthropologie sociale et culturelle à l'Université Paris-Descartes, ainsi qu'Emmanuel Dutheil, chef du service France à la rédaction d'Europe 1.
Pierre Siquier, ce que je disais en réaction au témoignage de Laetitia tout à l'heure, il y a une évidence avec cette collecte de dons, plus de 850 millions d'euros. Certains ont découvert de l'argent quelque part. On se sont dit, mais en fait, de l'argent, il y en a. On n'arrête pas de nous dire qu'il faut se serrer la ceinture, mais de l'argent, il y en a. D'où le malaise de certaines associations qui ne veulent pas dire du mal des donateurs pour Notre-Dame, mais qui veulent exprimer leurs besoins finalement.
Oui, mais je crois qu'il ne faut pas opposer l'un à l'autre. C'est-à-dire que le don, c'est vous donner par le cœur, vous donner par la cause qui est défendue. Et donc à partir de là, si vous voulez, le don est quelque chose d'extrêmement personnel. Donc on ne peut pas opposer l'un à l'autre. Ce qui est effectivement peut-être difficile à comprendre à un moment donné, c'est l'enthousiasme et la passion et l'émotion qu'il y a face à Notre-Dame et qui a peut-être un peu moins d'émotion ou de passion face à des causes qui sont plus difficiles, comme l'exclusion, le handicap ou la fin de vie. Ça, c'est possible, c'est vrai. Mais en tous les cas, ce qu'il faut souligner quand même, c'est que les donateurs français sont extrêmement fidèles. Donc 94% des donateurs aujourd'hui dans nos associations et fondations sont des donateurs fidèles. 94%.
Donc réguliers.
Oui, donc ce qui veut dire réguliers. Donc alors ils donnent peut-être un peu moins aujourd'hui. Ils ont donné un peu moins peut-être en 2018, mais ils ont donné. Donc ce qui veut dire que ce n'est pas parce qu'il y aura un événement exceptionnel comme Notre-Dame qui est très très émotionnel, qui justement peut-être va provoquer aussi une dynamique du don, parce que tout n'est pas forcément négatif dans cette histoire. Ça veut dire que sur une cause, on dit on est capable de mobiliser. Bah, peut-être sur d'autres causes, on sera capable aussi de mobiliser peut-être encore plus. Ce sera peut-être plus difficile, mais quand même.
Emmanuel Dutheil.
Et puis, si je peux me permettre quelques parallèles par rapport à ce que l'auditrice disait, par exemple, les grosses entreprises dont on parle, LVMH, Kering, Total, ce sont des entreprises qui ont participé également à l'effort national et sûrement légitime pour les gens qui étaient descendus dans la rue. Par exemple, la prime Macron, comme on l'appelle, qui est cette prime défiscalisée, qui a permis à quelques collaborateurs d'avoir un petit peu de sous en plus au début de l'année. LVMH, Kering et surtout Total sont les entreprises qui ont le plus donné à leurs collaborateurs. Total a donné 1500 euros à la plupart de ses collaborateurs. Donc, ils y ont aussi participé. Puis après, il faut peut-être regarder un peu les économies d'échelle. On va sûrement arriver autour du milliard d'euros pour les dons pour Notre-Dame. Rien que la revalorisation des retraites en l'indexant sur l'inflation, là, ce qui va être annoncé par Emmanuel Macron, c'est une mesure à 1,4 milliard. Donc il ne faut pas se dire qu'il ne va pas y avoir pour d'autres ou pour les personnes les moins aisées, des gestes également. Alors j'entends et je comprends totalement que ces gestes peuvent toujours paraître insuffisants et se dire on aurait peut-être pu partager ce magot, mais j'ai pas l'impression que ce soit l'un à la place de l'autre. Ce n'est pas les entreprises qui vont financer la revalorisation.
Sans oublier, je lisais sur les réseaux cet après-midi une phrase assez commune maintenant. Si le climat était une cathédrale, il serait déjà sauvé. Je me souviens de Brune Poirson qui nous parlait de 50, 60, 80 milliards d'euros qui nous manquent chaque année pour le climat. On est sur d'autres proportions. Mais c'est vrai que de parler de milliards, de s'approcher du milliard, ça a tout de suite impressionné Dominique Desjeux.
Et moi, ce qui me frappe dans la discussion, là, on marche tous sur des œufs parce qu'à chaque fois qu'on va dire un mot, on va se faire retraiter de je ne sais pas quoi. Ça
allez-y, franchement. Allez-y, franchement.
Et si je vais, franchement, c'est de dire, je pense, une de mes spécialités, je suis très généraliste, c'est la consommation. Et personnellement, la consommation, c'est normal. Il n'y a pas de vie sociale sans consommation. Mais je sens bien, en regardant la Chine, le Brésil, les États-Unis ou la France ou d'autres pays ou l'Afrique, que quelque part, on est arrivé à une espèce de butoir. Et le butoir qu'on a en France est un butoir qu'on pourrait appeler individualiste, mais c'est un mot neutre dans ma bouche, et qui est qu'on cherche des solutions individuelles. Là, les revendications, par exemple, d'une partie des Gilets jaunes sont assez individualistes. Alors qu'on pourrait se demander, d'autres sont collectifs, du reste, par exemple, tout le monde a bien vu que les ronds-points étaient une forme de vie collective. Ce que je me dis aujourd'hui, dans cet individualisme, ça se traduit par exemple par le logement. Le fait que dans beaucoup de villes, qu'on appelle périphériques, mais c'est une jolie métaphore, on a construit plein de logements, et donc on a augmenté plein de coûts. mais ça répondait à des besoins individuels d'avoir plus d'espace, moins cher et avec un jardin. Aujourd'hui, on se rend compte que d'avoir plus d'espace, donc qui correspond bien à un besoin individuel, à des coûts aussi individuels, c'est la mobilité, c'est l'essence, c'est la voiture. J'ai même fait un papier pour montrer les quatre grandes pannes, la panne de voiture, la panne de réfrigérateur, la panne de machine à laver ou la panne surtout du chauffage, hein, de la chaufferie. Quand ça tombe en panne, tout le budget de la famille saute. Et on voit bien qu'on ne peut plus continuer à uniquement répondre à des besoins individuels de gens qui sont dans la pauvreté ou qui sont dans des problèmes, comme la dame qui vient de parler, qui ont des vrais problèmes du budget qu'on connaît tous. Mmh. Et il faut maintenant, au niveau local, au niveau d'une mairie, au niveau d'une collectivité locale, repenser autrement tous ces coûts individuels qu'on ne peut plus prendre en charge collectivement.
Quand on parle de ces dons pour la cathédrale Notre-Dame de Paris, et pour dire les choses franchement, ce qui a choqué aussi, c'est que certains estiment que la famille Decaux, la famille Pinault, la famille Arnault auraient déjà dû payer pour la reconstruction de la cathédrale, mais via les impôts. C'est l'idée qu'on ne les taxe pas assez et que finalement, c'est pour ça que l'État a besoin de ce mécénat. C'est ça, cette opposition, finalement.
Oui, après, c'est quand même des groupes qui payent de l'impôt. Hein. LVMH fait 10% de ses ventes en France, mais 50% de l'impôt qu'il paye partout dans le monde, il le paye en France. Donc c'est quand même des groupes qui contribuent à l'effort national. Alors c'est sûr qu'on pourrait dire, j'entendais ce matin sur l'antenne d'Europe 1 Alexis Corbière de la France Insoumise, ils sont dans des paradis fiscaux, ils sont ceci. Bien sûr, on ne va pas non plus tortiller là-dessus. Hein. C'est certain, ils font de l'optimisation fiscale. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais malgré tout, ce sont des groupes qui contribuent déjà aujourd'hui à l'impôt en France, à l'emploi en France. Hein. LVMH est un des très 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 gros employeurs en France. Donc après, voilà, on en revient au rapport de l'argent. Je pense que là, on est aussi, c'est très personnel peut-être ce que je veux dire, mais on est sur quelque chose d'inédit. Et il faut vraiment avoir ça en tête. On n'a jamais assisté à des dons comme ça, aussi forts, aussi rapides, aussi massifs. Moi, je ne me souviens pas de dons d'entreprises françaises. Il faut voir, avant-hier matin, c'est 100 millions à la famille Pinault à 8h, à 10h,
c'est 200 millions. C'est ce qui a peut-être écœuré aussi certains.
Peut-être parfois la ça Fondation Bettencourt, 200 millions total, 100 millions. En 2 heures, on avait récupéré plus que ce que l'État français et les collectivités donnent pour financer le patrimoine.
Ah, moi, j'ai cru que l'ISF allait revenir spontanément.
Sur une année entière.
Pierre Siquier.
Oui, oui. Ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une société libérale, c'est comme ça. Donc à partir du moment, ce qu'il faut arriver à démontrer, c'est que la générosité justement des Français, qu'ils soient particuliers ou entreprises, c'est une part de notre contrat social aujourd'hui. Et qu'il faut revaloriser cette générosité dans le contrat social. C'est pas parce qu'il y a des gens qui payent des impôts et qui sont très très riches qu'ils participent pas au contrat social. Nous, on participe à notre manière au contrat social et les donateurs sont partie de ce contrat social.
Dominique Desjeux, d'un mot pour terminer.
Je pense qu'un des problèmes du don des grands patrons aujourd'hui vient de notre histoire où on n'aime pas ce qu'on appelle le paternalisme, qui était un moyen de redistribution. On peut discuter de ne pas aimer, hein, mais il y a cette espèce de refus de ce qu'on appelle le paternalisme, alors que c'est un moyen de redistribution comme un autre.
19h55, merci beaucoup messieurs. Emmanuel Dutheil, chef du service France à la rédaction d'Europe 1. Merci Emmanuel.
Merci.
À demain. Votre invité ce soir, pardon, 22h20.
Eh bien, on sera avec le patron de la Banque Postale, il s'appelle Rémi Weber. On va voir avec lui si justement la Banque Postale va aussi donner un petit peu de sous pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris et comment ils sont en train de s'organiser pour qu'il y ait plus d'inclusion au sein des réseaux bancaires et notamment pour que le digital ne laisse pas sur le bord de la route une bonne partie de leurs clients.
22h20, juste après le journal d'Isabelle Millet. Dominique Desjeux, merci beaucoup, professeur d'anthropologie sociale et culturelle à l'Université Paris-Descartes, et Pierre Siquier qui était avec nous également, président de France Générosité. 19h56, bonsoir Émilie Mazoyer.
Salut Mathieu.
Comment ça va, Émilie ?
Oh, ça va fort bien.
Alors, après Elmer Footbeat hier soir...
Il fallait changer de goût, je sais.
Ah, on a changé de... Je ne sais pas du tout ce qu'on écoute ce soir, Émilie.
Vous allez voir, c'est très différent. C'est l'incontournable Kerenan. Ce regard bleu,
merveilleux, bleu. Deux salles, deux ambiances. Quoi.
Oui, c'est ça. C'est un peu le principe de
va
musique.
Falloir se mouiller,
hein,
la nuque.
On fait comme ça, nous. L'album donc Bleu est sorti le 15 mars. C'est une merveille. On va en parler avec elle tout à l'heure.
Belle soirée en musique avec Émilie Mazoyer et Kerenan. À demain, Ombline.
À demain, 17h. Merci, Mathieu Béliard. À tout de suite avec Isabelle Millet pour l'information sur Europe 1. Europe 1.